peut commencer peut-être. Oui. On est à 3 minutes en avance, mais on commence gentiment. Merci d'être là un samedi matin pour la rencontre avec la lauréate de la langue française de la ville de Brive. Je suis d'autant plus ravie de vous recevoir que votre roman est assez extraordinaire, il faut le dire. Donc si vous le voulez bien, je vais commencer par vous présenter. Et puis on discutera de ce roman, Le jour des caméléons, paru aux éditions Grasset en août dernier. Alors Ananda Devi, vous êtes ethnologue et traductrice. Vous êtes née à l'île Maurice, auteur reconnu, couronné par plusieurs prix littéraires. Vous avez publié des recueils de poèmes et des nouvelles et des romans. Je vais en citer quelques-uns. Alors Ève de ses décombres, publié chez Gallimard, a reçu le prix des 5 continents, prix RFO. Le Sarivert, prix Louis Guillot. Mange et l'autre, Grasset, prix Étonnant Voyageur. Et j'en passe. Alors, votre dernier roman, Le jour des caméléons, qu'on vient de citer, donc a reçu ce prix de Brive, que je pense qu'il vous a été remis hier.
Oui, absolument. Oui. Bonjour à tout le monde.
Quelle est la satisfaction, justement, que peut avoir ce genre de prix délivré par une ville telle que Brive ?
En fait, ce que je disais hier pour la remise du prix, c'est que l'intitulé même du prix, le prix de la langue française, bien qu'il se rapporte à un roman, mais il se rapporte aussi quelque part à toute mon écriture et à l'importance que cette langue a toujours eue pour moi, parce que j'ai toujours écrit en français depuis mon enfance, mais j'aurais pu avoir écrit en anglais puisque j'ai fait aussi toutes mes études en anglais. J'aurais pu avoir écrit en créole mauricien parce que c'est la langue que parlent tous les Mauriciens. Ou éventuellement, si je n'avais pas perdu la langue que parlait ma mère, qui était langue d'Inde du Sud, le Telugu, mais que j'ai perdu très tôt parce que dans le village où je vivais, dans l'environnement, on ne parlait pas cette langue au quotidien. Donc, enfant, on ne se rend pas compte de l'importance de préserver quelque chose qui est aussi fort qu'une langue littéralement maternelle, mais elle n'est plus ma langue maternelle. Donc, quelque part, le français, quand j'ai commencé à écrire en français, s'est immiscé peut-être dans ce vide de cette langue de ma mère que j'ai perdue. Et je crois que depuis, j'ai toujours vécu de manière extrêmement intense et passionnel, je dirais, avec cette langue. Donc, ce prix...
Une reconnaissance, quelque part, d'eux ?
Oui, et c'est aussi une reconnaissance pour moi de tout ce que je dois à cette écriture dans cette langue.
Et donc, la langue française, ça a été une évidence pour vous d'écrire dans cette langue, ou ça a été une réflexion et un choix ?
Non, ça n'a pas du tout été une réflexion, parce que, comme je disais, j'étais tout enfant, et donc les deux premières langues de lecture, quasiment dès qu'on commence à lire, c'était l'anglais et le français. Et c'était les livres que me lisait mon père aussi, les contes, à la fois en anglais et en français. Ma mère racontait des contes, des mythes hindous. Alors, je ne sais pas du tout pourquoi. D'une certaine façon, c'est peut-être une question de sensibilité. Oui. Peut-être qu'il y a quelque chose qui m'a parlé davantage dans cette langue. Et puis, arrivé à l'adolescence, je me suis rendu compte que l'écriture, c'était du sérieux pour moi, que je voulais vraiment être écrivaine. Et là, c'était parti pour... j'ai fêté, enfin entre guillemets, cette année les 50 ans de ma première publication, qui était une nouvelle primée à l'époque à l'ORTF, et donc elle a été publiée dans un recueil en 1973. Donc ça fait littéralement 50 ans depuis que je publie.
Alors ce métissage, on va sans doute en parler plus tard, et puis la langue, on va en reparler un peu plus tard, parce que j'aimerais qu'on parle du livre et puis on parlera de la langue dans laquelle il est écrit, qui à la fois passe de la rage à la poésie. Enfin, il y a un mélange des genres qui fonctionne assez bien. Mais on va discuter quand même du fond du roman et notamment des personnages. Donc, pour un résumé court, le livre est relativement court, il est tout en tension. Il est à la fois, c'est assez paradoxal et profond, il est à la fois animal et humain. On va peut-être en parler. Et il est question de 4 personnages qui luttent avec leurs propres démons, avec leur violence, avec leurs angoisses. Et puis leurs angoisses se confrontent au réel quand ils se rencontrent. Rapidement, les 4 personnages sont... Donc, il y a Nandini, une dame de la cinquantaine, qui se réveille un matin et qui se dit, en fait, je suis devant une vie que je n'ai pas choisie, quelque part, et qui décide de partir. Il y a René, qui vit reclus dans ses angoisses et dans un sentiment d'échec qui rumine et qui a vraiment peur du dehors. Mmh. Il y a, d'ailleurs, vous avez une très belle phrase pour le décrire. Vous dites, il a l'innocence d'un enfant et la lassitude d'un vieillard. Je trouve cette phrase très belle. Mmh. Il y a Sarah, sa nièce, qui est aussi un peu en marge de la société, enfin, qui se sent différente et qui est quand même la lumière de René. Et puis, il y a Zigzig, le jeune délinquant. J'ai pas pu m'empêcher de me demander, alors ce sont quatre personnages qui sont en marge de la société, ça a été un choix ?
En fait, d'une certaine façon, c'est vrai que je parle beaucoup des marginaux, mais là, ce n'était pas tout à fait, à part René, peut-être qui lui est vraiment en marge, mais les autres sont quelque part inscrits dans un cercle social, si vous voulez, et identitaire assez marqué, démarqué à Maurice. Mais ce jour-là, précisément, tout se passe en un jour. Donc il y a comme une sorte d'unité de temps, de lieu et d'action, comme une tragédie, et ça va être une tragédie. Ce jour-là, précisément, ils sortent de leur cercle habituel et tout à fait par hasard vont se retrouver et vont être les catalyseurs. Donc Nandini, en fait, bon, qui vient un peu de la haute société bourgeoise, enfin, d'origine indienne, qui est mariée à un juge, dont on pourrait penser que bon, ben, sa vie est tout à fait tracée, bien réussie, etc. Soudain, elle se rend compte qu'elle est devenue invisible, même aux yeux de son mari, que la façon dont il la traite, c'est un peu... Enfin, il a des gestes maladroits, peut-être pas tout à fait considéré, mais pour elle, elle se sent complètement donc devenue marginale dans cette vie bien, bien cadrée. Et donc elle décide de tout plaquer, de partir. Et René, lui, qui est peut-être dans un sens un des laissés pour compte, ceux qu'on oublie facilement, ceux qui n'ont aucune importance dans cette société, qui se sent lui-même inutile, qui a du mal à se lever le matin, sauf pour aller chercher sa nièce Sarah pour l'emmener à l'école. Elle est sa seule lumière, comme vous avez dit. Mais ce jour-là, donc, la rencontre fortuite entre Nandini, René, Sarah et finalement le délinquant Zigzig qui règne comme un petit roi, mais roi violent, un caïd sur le village de Baie du Tombeau, qui existe vraiment, mais donc leur rencontre va être le déclencheur justement de ce quasiment cette apocalypse sur l'île, mais qui est quand même, disons, portée par une espèce de cocotte minute où les conflits sociaux sont en train de bouillonner. Alors ça pourrait se passer dans un futur proche, c'est pas tout à fait ce qui se passe maintenant, mais disons qu'on sent ces remous identitaires, communautaristes, etc. Et donc, finalement, c'est cette cocotte minute qui attend d'exploser. En
fait. Alors, quand vous dites futur proche, qu'on comprenne bien, futur proche, alors, dans le sens, on passe du conte au thriller. Alors, il y a un cinquième personnage, parce qu'il y a, l'île Maurice, votre terre de naissance. Qui parle aussi, que vous faites parler. Mais quand vous dites un futur proche, c'est-à-dire que ce que vous racontez là, ces conflits sociaux sont actuels, mais vous voulez peut-être extrapoler au niveau où ça va exploser,
oui.
C'est ça ?
Oui, c'est ça, absolument. C'est quelque chose de latent. C'est sur 2000 km² de terre, il y a plusieurs groupes. Qu'on appelle là-bas communal, les communautés, plutôt que, enfin, pas dans le sens de commune, mais plutôt de communauté, mais qui sont en apparence, quand les gens vont visiter l'île Maurice en touriste, cette espèce d'illusion d'un paradis tropical où les gens sont très chaleureux, très, très accueillants, ce qui est vrai, mais ça résonne un peu, non ? Mais en fait, ça va là ? Oui. En réalité, sous cette surface qui est très belle, très douce, il y a quelque chose qui gronde Et c'est un peu aussi une sorte de représentation du monde aussi, de ce monde qui est en ébullition, qui gronde, qui semble exploser de toutes parts. Donc je voulais vraiment peut-être ramener sur cette petite terre de 2000 km² tout ce qui se passe dans le monde, y compris l'héritage colonial qui a apporté les blessures de l'esclavage, du transport des laboureurs indiens, mais aussi la mondialisation qui fait qu'on a des gens qui s'enrichissent très très vite et d'autres qui sont complètement largués et laissés pour compte dans cette société. Donc, et puis le changement climatique aussi. Donc tout ça est venu se greffer dans cette histoire, mais effectivement, finalement, j'ai écrit plusieurs livres qui se passent sur l'île Maurice, mais là, j'avais vraiment envie de la faire parler, elle, que c'est sa voix qu'on entend, parce qu'elle décide maintenant de se révolter. Elle se dit, elle existe depuis des dizaines de millions d'années, née d'un volcan, d'ailleurs. Mais il y avait une faune et elle était une île inhabitée à part ses animaux. Mais dès que les hommes commencent à arriver, il y a à peine 4 siècles, ils commencent à tout détruire. Donc le dodo détruit par les Hollandais, les forêts d'ébène, par l'arrivée des Français avec la plantation de la canne à sucre. Et donc petit à petit, toutes les espèces endémiques ont quasiment disparu. Et donc l'île se dit, maintenant il est temps de me débarrasser de ce qu'elle appelle le virus humain.
C'est ça, c'est ce que j'allais vous citer. Je dis, ce virus humain entré dans les veines de ma pierre, je le rejette.
Oui, oui, parce que c'est elle qui parle, et c'est elle qui se dit, vous avez fait fausse route, on est dans la civilisation de l'erreur et du chaos. Et que, dans un sens, si on continue dans cette voie-là, ça risque vraiment d'exploser. Maintenant, j'espère que ça n'arrivera pas. C'était une manière pour moi de, pas d'anticiper, mais peut-être de prévenir, de mettre en garde ce qui peut arriver. Et évidemment, je pousse aussi loin que je peux ces aspects-là. Sauf que l'être humain reste quand même au centre de l'histoire et que ces êtres humains-là, quand on lit leur manière de faire face à l'extraordinaire, à ce qui est complètement inattendu dans leur vie, chacun va se révéler complètement différent de ce que l'on attend. Donc le petit caïd peut avoir un moment où tout se retourne et que le regard du lecteur sur lui se modifie et change, et également pour les autres, chacun des autres personnages. Donc c'était aussi une manière de parler de la complexité humaine, qu'on n'est pas dans le manichéisme ou le jugement facile, hâtif qu'on a l'habitude d'entendre, et qu'il faut vraiment réfléchir à ce que nous-mêmes nous sommes face à l'extraordinaire.
Et puis vous parlez aussi assez régulièrement de ce fossé entre les richesses acquises par un petit nombre, avec ces villas donc, que vous décrivez étant vides 11 mois sur 12, et les petites mains, voilà. C'est aussi un cri d'amour pour votre île, clairement. C'est un cri d'amour pour votre île et un cri de peur aussi pour l'île. Et alors, revenons au caméléon, parce que c'est quand même le titre de votre livre. Dès le départ, il est question de caméléon. Et je me disais, pendant que vous parliez, que l'image qui me revenait, c'était comme quelque chose de biblique, comme si c'était annonciateur, justement, d'un des... Vous savez, des...
Oui, un petit peu, ou un peu une chorale, ou un chœur grec, je pense. Mais ils sont aussi, quelque part, des animaux qui s'adaptent. Ils changent de couleur selon le lieu où ils se trouvent. Donc, ils ne sont pas liés à ces différences d'apparence ou de peau, littéralement, que l'on voit chez les hommes. Et ils représentent un peu une espèce qui elle, est prête à reprendre sa place sur cette île. Mais tout en la respectant et en ayant pour elle la révérence que les hommes n'ont non plus pour la nature, pour la terre. Et donc, ils sont là, ils attendent, et ils sont peut-être les héritiers, je dirais, de cette île lorsqu'elle sera revenue à son état premier. Donc, c'était un peu ça, leur présence.
Alors, les caméléons, pardonnez-moi, mais ils changent de couleur, ils s'adaptent. Ils s'adaptent à...
C'est
voilà.
Ça, oui.
Et est-ce que c'est... Je sais pas, je me fais la réflexion maintenant, mais est-ce que les caméléons s'adaptent ? Est-ce que c'est une façon de dire que les hommes peuvent s'adapter ou que les hommes ne s'adaptent pas, au contraire ? Et c'est une opposition avec...
C'est un peu une opposition parce que les hommes ne s'adaptent pas vraiment. Enfin, nous sommes devenus inadaptés à la nature. On ne peut plus supporter ni le froid, ni le chaud, vivre sans électricité, etc. On a créé notre bulle de civilisation, entre guillemets, mais du même coup, nous ne sommes plus du tout, enfin pour la plupart, pour beaucoup, à l'écoute de la nature et de ce qu'elle nous dit. Ce dont elle est en train de nous prévenir chaque jour. Donc oui, dans ce sens-là, c'était une en opposition à l'homme. Oui.
Et l'île Maurice, ça a été, j'imagine que c'est pas la première fois que c'est le décor d'un de vos romans. Mm-hmm. Vous y puisez toujours votre inspiration pour écrire, dénoncer. Romancé?
Pas toujours, parce que j'ai plusieurs livres qui se situent ailleurs, notamment en Inde ou à Londres ou d'autres pays, mais quelque part, comme mon écriture est née de cette île et dans cette île, elle est toujours là en moi. J'ai l'impression que je la porte toujours dans mon inconscient, même quand j'écris, même quand je situe un roman ailleurs. Sa présence est là, et c'est vrai que quand je rentre dans mon pays, je sens vraiment que c'est là que se trouvent mes racines, c'est là que mes parents sont décédés. Donc tout ça a vraiment construit la personne que je suis, mais aussi l'écrivaine que je suis. Et en même temps, je trouve qu'elle est vraiment, comme je le disais tout à l'heure, représentative du monde aussi, parce qu'il y a tellement de différentes communautés pardon, qui se sont retrouvées là par le hasard de l'histoire de la colonisation, l'histoire de l'esclavage, du transport des laboureurs indiens et puis du commerce, de la mondialisation, qu'on retrouve là. À la fois toutes les possibilités, le potentiel humain qui se retrouvent ensemble, mais aussi tous ces dangers et tous les conflits qui peuvent jaillir, et y compris, comme vous disiez tout à l'heure, on brade finalement en ce moment cette petite terre pour vendre des maisons très très luxueuses à des personnes richissimes étrangères qui viennent passer là 2 semaines ou 1 mois de l'année. Le reste du temps, ce sont des maisons sur des hectares de terrain, mais qui restent vides. Et donc, c'est les petites mains, justement, qui viennent travailler là. Mais il n'y a aucune possibilité pour eux de mobilité sociale. Pour d'autres, oui. Et donc, il y a cette espèce de domination des faibles, des pauvres, qui existe encore, même après tant d'années d'indépendance de l'île. Donc, son développement économique a été au dépens vraiment d'une catégorie de la société.
Et donc, ça s'est fait comment, justement, son développement économique depuis l'indépendance ? Comment est-ce que fonctionne ? Parce qu'effectivement, on peut avoir... à tort le sentiment de cette île paradisiaque où nous touristes pouvons aller en vacances. Oui. Personnellement, moi j'y suis allée en vacances il y a quelques temps. Mm-hmm. Et on se doute, mais on ne voit pas ce que vous dites, ce que vous racontez là. Et c'est bien évidemment une des raisons pour lesquelles ce genre de livres sont nécessaires et importants. Oui. Est-ce que vous pouvez nous le décrire justement de la terre de l'intérieur, et je pense aussi que c'est un concentré, vous répétez assez régulièrement, à juste titre, c'est une terre de 2000 mètres carrés, et peut-être que le fait que ça concentre, qu'elle soit petite, concentre justement, on voit plus certaines divergences, certains conflits, certaines choses, mais est-ce que vous pouvez nous les expliquer un peu de l'intérieur ?
En fait, à la fois, l'idée que c'est une petite terre, ça oblige un peu les gens à continuer à maintenir au moins à la surface une certaine manière de vivre ensemble, parce qu'on sait que si ça éclate, on ne peut pas fuir.
C'est insulaire,
il n'y a pas de possibilité de fuite. Donc il y a des mécanismes qui font que... Il y a beaucoup de non-dits, en fait. Et c'est pour ça qu'on ne se rend pas compte très facilement de ce qu'il y a comme conflit sous-jacent, comme hostilité sous-jacente entre les différentes communautés, mais tout est vraiment non dit et il y a des courants comme ça, surtout au moment des élections qui sont portées par la politique, alors que c'est une démocratie, qu'il y a des élections tous les 4 ans. Mais c'est une politique qui utilise beaucoup le regroupement identitaire pour obtenir des votes. Et là, disons que, enfin, pour schématiser le système de pouvoir, mettons, politique est plutôt chez les personnes d'origine indienne, et le pouvoir économique plutôt chez les descendants des colons français. Et donc... franco-mauriciens, comme on les appelle, qui, eux, possédaient toutes les usines à canne à sucre, les usines à sucre, les propriétés sucrières. Donc, au moment de l'indépendance, c'était une monoculture. En fait, le seul export, produit d'exportation de l'île, c'était le sucre, la canne à sucre.
Et ensuite,
après l'indépendance, très vite, le développement économique, justement, est allé vers le tourisme. Mais le tourisme aussi apporte un développement qui est assez factice, parce que là, les produits deviennent plus chers, tout se tourne vers ces hôtels très luxueux, et les plages deviennent quasiment interdites aux locaux, à part quelques-unes. Et puis, il y a eu aussi l'industrie textile, de retraitement du textile, mais tout ça est très fragile. Parce que la canne à sucre, si le cours du sucre tombe, les revenus baissent. Le tourisme, on a vu pendant la pandémie du Covid, il a fallu fermer l'île complètement. Pendant 2 ans, c'était interdit aux touristes de venir. Pendant toute 2020, les avions ne pouvaient même plus atterrir, à juste titre, parce que si le Covid s'installe, ça aurait été très difficile de l'éradiquer. Donc c'était une bonne raison de le faire, mais du coup, les revenus provenant du tourisme baissent complètement. Et l'industrie textile est aussi fragile parce qu'il y a des accords qui sont remis en question chaque année. Tout a été vers ce développement économique, vers un enrichissement, et puis une société de consommation. C'est vraiment une société de consommation, comme partout d'ailleurs. Je ne dis pas que c'est la seule, mais j'en parle beaucoup dans ce roman-là en particulier, qui est un roman finalement très politique. Je m'en rends compte après. Je ne suis pas partie dedans avec cette idée, mais maintenant, après coup, je me dis, c'est probablement mon roman le plus politique. Et cette société de consommation, cette disparité... À un moment du roman où les jeunes caïds qui viennent de familles extrêmement pauvres, de régions, vont arriver devant un centre commercial et voir sur un immense écran des publicités pour des voitures de luxe, pour des bijoux, tous les produits de luxe qu'on peut imaginer.
Tout ce qu'ils n'auront pas, en fait.
Tout ce qu'ils n'auront pas, ou alors qu'ils doivent obtenir, mais en se mettant dans un mode de vie, en vendant de la drogue, ou en la consommant, ou en étant justement dans ce processus de violence, alors qu'ils allaient se battre entre eux, soudain ça leur révèle que l'ennemi, ce n'est pas eux. L'ennemi, c'est cet autre-là qui a accès à tous ces biens, tous ces produits de luxe, et qui mène une vie qui est complètement différente de la leur. Et donc, c'est ça qui va en fait déclencher l'explosion.
Alors, l'explosion, c'est peut-être justement... Alors là, vous êtes allé vraiment bout du bout de l'anticipation et de l'imagination, de l'extrapolation. Oui. Si on devait imaginer une solution, enfin si vous deviez imaginer une solution moins, espérons-le, catastrophique, pour que les choses s'assainissent, comment vous verriez les choses, vous ? En tant qu'écrivain, en tant que femme engagée, clairement, en tant que mauricienne.
Oui, c'est compliqué. Enfin, j'espère que... Je sais que les Mauriciens qui lisent mes livres, ceux qui aiment mes livres, ben, en général, ils comprennent ce que je veux dire et peuvent aussi penser un peu de la même manière. Alors, ce qui est très, très étonnant, c'est que les politiciens eux-mêmes sont très contents quand je reçois un prix, etc. Donc, quand je viens à Maurice, ils sont fiers, ils me reçoivent, etc. Mais en fait, ils ne lisent pas. Donc, s'ils lisaient mes livres, mais ils se diraient que je suis en train de les descendre, mais à un point. Et c'est fou. Et j'ai même reçu la visite du ministre du Tourisme, parce qu'il me disait, oui, vraiment, je pense qu'il faut associer la culture et le tourisme. Et il ne se rend pas compte à quel point je suis en train de remettre en question tout ce processus.
Après, vous n'êtes pas frontal. On peut...
Non,
c'est
mais
très
bon,
intelligent. C'est... Enfin, au moins un nez. Donc...
Oui, mais j'espère quand même que... je suis en contact avec d'autres écrivains à l'île Maurice, etc. Donc, chaque fois que j'y vais, on va dans des écoles. Mais je voudrais vraiment, là, peut-être pour l'année prochaine, essayer d'aller pour assez longtemps, mais pour aller dans des écoles où, dans les régions les moins favorisées. Parce que souvent, on m'invite dans les écoles, dans les lycées ou dans des écoles un peu... urbaine ou d'élite, comme on appelle, où ils étudient mes livres, mais pas forcément là où ce sont... Ils n'ont pas vraiment... Jamais ils ne vont rencontrer un écrivain vivant ou des choses comme ça. Donc je pense que ça, c'est le genre de travail qu'il faut faire et que c'est possible parce que justement, c'est une population d'1,3 million de personnes. Donc, c'est pas énorme pour essayer de rectifier les choses. Mais encore faut-il qu'il y ait cette volonté-là.
Passer par la culture, par la littérature, par l'éducation.
C'est un aspect, oui, je pense, par l'éducation. Mais surtout, ne pas oublier ces enfants des régions pauvres, côtières, des villages de pêcheurs, etc. Où si l'enfant ne vient pas à l'école, personne ne va aller chercher, voir qu'est-ce qui se passe, pourquoi il n'est pas venu. Et souvent, les profs eux-mêmes, des instituteurs, sont mal payés. Alors, dans les écoles privées, ils peuvent mieux gagner leur vie, mais les instituteurs dans ces régions-là, c'est presque un pis-aller que de choisir ce métier. Et ça, c'est un peu partout dans le monde aussi. Hein. C'est comme les infirmières, comme les infirmiers et tout, que ces métiers qui sont quelque part les plus précieux, les plus importants pour nous tous... sont les plus mal valorisés.
Oui. Alors, j'ai trouvé une interview où vous disiez, vous me dites si c'est véridique, je suis un fruit de ce métissage, je le savoure pleinement et j'en apprécie les richesses. Donc vos arrière-grands-parents venaient d'Inde. Et vous ajoutez, cela me désole que les choses ne se soient pas passées comme je l'avais espéré à l'époque. Alors j'ai deux questions. Est-ce que pouvez-vous nous éclairer sur justement les communautés qui habitent à l'île Maurice ? Et puis, qu'est-ce que vous voulez dire par « ça me désole que les choses ne se soient pas bien passées à l'époque »
Oui, en fait, bon, là...
Petit cours d'histoire.
Petit cours d'histoire, j'allais dire que ça risque de prendre longtemps. Mais bon, d'abord, il y a eu la colonisation, donc l'arrivée des Européens, des Occidentaux qui exploraient le monde, en fait.
Les Français et Néerlandais
D'abord, les Hollandais qui sont venus. Bon, oui, donc les Hollandais, ils ne sont pas restés longtemps, mais assez longtemps pour détruire le dodo. Et puis ils sont repartis. Les Français sont arrivés ensuite, au début du XVIIIe siècle. Et là, ils sont restés parce que la canne à sucre devenait très importante économiquement dans le monde, en fait. On dit beaucoup que l'exploration du monde a été aussi impulsée par la culture de la canne. qui était une denrée donc très très prisée en Europe. Et donc dès qu'on commence à cultiver la canne, ben, il faut faire venir une main d'œuvre, et c'est là qu'ils font venir une main d'œuvre esclave donc d'Afrique de l'Est et de Madagascar. Les Anglais et les Français se battent pour la possession des îles Maurice et de la Réunion. Et lorsque, au bout de cette guerre, ils décident que les Français garderont la Réunion et les Anglais prennent Maurice. Et au moment de l'abolition de l'esclavage, ils font venir, comme ils ont aussi l'Inde comme colonie, ils font venir donc des centaines de milliers d'Indiens. Et des Chinois aussi. Donc on est vraiment une population très multiple, plurielle, etc. Mais avec le temps, l'interpénétration de ces différentes identités, de ces différentes cultures, etc., ne s'est pas faite d'une façon très, très profonde, en fait. De sorte que, par exemple, quand, même aujourd'hui encore, quand un couple veut se marier, s'ils ne sont pas de la même religion, c'est très mal vu, s'ils ne sont pas... Même à l'intérieur de la communauté d'origine indienne, il y a ceux qui viennent du nord, du sud, des castes différentes, plus les religions, donc musulmanes, hindoues. Donc tout ça fragmente cette société, en fait, crée des compartiments, et il y a en apparence une espèce d'harmonie, mais en fait, en réalité, pas vraiment de vrai métissage. Et alors, moi, j'ai toujours pensé que, étant enfant, entendant des langues autour de moi, donc apprenant l'anglais, le français, connaissant le créole, entendant le Bhojpuri, qui est une langue du nord de l'Inde, dans le village, pouvant lire autant des classiques occidentaux ou des mythes, enfin voilà, c'est un mélange extraordinaire et une richesse extraordinaire qui fait que ben, dans mes livres, bien sûr, j'écris en français, mais il y a aussi d'autres langues sous-jacentes qu'on entend, d'autres musiques et d'autres, et bien sûr une compréhension un peu différente du monde. Mais pour disons, beaucoup de mes compatriotes, ils se retranchent un peu dans, pas tous évidemment, mais ils se retranchent un peu dans ces différents identitaires. Et ben, hier, il y avait une personne qui avait été à Maurice, elle me dit, je trouve extraordinaire que dans un même village, il y ait côte à côte un temple hindou, une mosquée, une église ou une chapelle chrétienne. Elle dit, c'est merveilleux, c'est vrai que c'est merveilleux. Mais en même temps, ça montre aussi cette division-là, parce que les gens sont très, très attachés à leur religion, c'est bien. Mais lorsque on s'ancre et on s'enracine dans un sentiment de la différence entre ces religions, là, ça devient dangereux.
Et alors, écrire dans la langue du colon, c'est une façon un peu transgressive. Enfin, est-ce qu'il y a quelque chose de symbolique là-dedans, ou juste c'est une projection de ma part?
Ben pour moi, pas du tout, parce que comme je le disais, je ne l'ai pas choisi délibérément. Et j'étais trop jeune pour savoir que c'était enfin, la langue du colon, entre guillemets, mais je pense que finalement, une langue, elle est à tout le monde aussi, même si elle nous est léguée par ces circonstances-là. Mais une fois qu'on se la réapproprie, elle devient notre langue et qu'il y a une sorte de... une beauté dans l'appropriation de quelque langue que ce soit, et la faire sienne, pouvoir s'exprimer dans cette langue, c'est quelque chose de tellement merveilleux que appliquer dessus tout le temps ce prisme... cela dit, je pense que le monde souffre encore des séquelles de la colonisation, ça c'est certain, mais pas à travers les langues, parce que si elles nous permettent de communiquer, au contraire, elles apportent quelque chose. Mais par contre, dans toutes ces îles où les créoles existent, qui sont nées justement de la situation de l'esclavage, il y a beaucoup de personnes à Maurice même qui ne considèrent pas le créole comme une vraie langue. Alors qu'elle est parlée par tout le monde, mais ils ne sont pas contents qu'on a commencé à l'enseigner dans les écoles, ou que, enfin, ils pensent vraiment que c'est une langue de seconde zone, plutôt.
Qui pense ça?
Beaucoup de Mauriciens eux-mêmes, qui pensent que promouvoir le créole en tant que langue, c'est un peu s'enfermer, devenir plus insulaire. Mais en fait, ce n'est pas que le créole ne remplacerait pas forcément l'anglais et le français comme langue de communication, mais donner aussi la possibilité aux enfants qui grandissent avec cette langue comme leur langue maternelle, quand ils vont à l'école, de ne pas tout de suite commencer à apprendre dans une langue qui n'est pas finalement celle qu'ils parlent à la maison. Donc il y a vraiment deux courants de pensée à propos de ça, et aujourd'hui encore il y a une lutte pour valoriser le créole comme une langue littéraire aussi. On écrit aussi en créole.
Dans laquelle vous envisageriez peut-être
Moi, j'ai déjà écrit dans cette langue, bon, comme en anglais, mais pas autant que j'écris en français. Mais oui, j'ai écrit dans cette langue et même participé justement à des manuels scolaires parce qu'il n'y avait rien comme matière pour commencer à enseigner. Et donc, les enseignants ou ceux qui créaient ce cursus scolaire qui a commencé, je crois, en 2012, il me semble, donc ça fait pas très longtemps, ont demandé à des écrivains si vous voulez proposer des textes en créole, d'abord pour les tout-petits, et puis petit à petit pour des plus grands. Donc, moi, je suis très, très contente d'y avoir participé. C'est merveilleux. Mais... Donc, voilà, toutes ces langues, pour moi, c'est la richesse de mon pays et puis de ce qui me constitue aussi.
Oui. Alors pour en revenir rapidement au livre et du symbole des caméléons, alors les caméléons donc presque sortent là, il y a une scène au début, ils envahissent, ils investissent la Terre. Puis, donc vous expliquez que les caméléons en fait viennent de Madagascar à la base,
oui,
c'est ça?
Oui, 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 c'est
et qu'ils
ça.
Se retrouvent dans un bateau et
oui.
Oui, que les vrais habitants c'est les lézards.
Oui, mais donc c'est aussi un peu des migrants quelque part, c'est comme toutes les populations de Maurice en fait, on est tous issus de la migration, donc d'accord. Eux aussi.
D'accord, et du coup justement on parlait du fait qu'ils puissent... s'adapter, etc. Il y a une scène qui arrive au début, donc je pense que je peux en parler. Enfin, celle où Nandini a un excès de violence, je ne sais pas si vous voulez qu'on en parle, mais
oui.
Donc elle a ce geste-là, elle voit ces caméléons-là, elle a un geste assez violent. Pourquoi cette violence-là, tout d'un coup, c'était pour justement dire qu'elle se réveillait d'une vie non choisie ?
Oui, mais aussi... C'est l'étrangeté de l'animal par rapport que l'humain ressent par rapport à un animal bon, sauvage, entre guillemets, le caméléon, il ne va pas s'attaquer à elle. Mais pour elle, c'est une invasion. Donc elle voit l'arrivée des caméléons dans son jardin comme une invasion. Et elle va avoir un geste très violent envers eux, mais peut-être aussi parce qu'elle-même, elle est portée par une sorte de désespoir à ce moment-là qui va la faire partir. Et donc, c'est à la fois un moment de rejet de la nature, qu'elle regrette tout de suite d'ailleurs. Elle se dit, mais qu'est-ce qui m'a pris de faire ça ? Et en même temps, une expression de son impuissance face à sa propre situation, à son propre état d'âme. Mais ce qui va arriver bien plus tard, c'est qu'au moment où elle est attaquée, les caméléons vont la défendre quelque part. Donc, il y a aussi, c'est aussi une espèce de symbole d'une générosité de la nature que les hommes n'ont pas.
Concernant la narration, donc s'il y a plusieurs chapitres, chaque chapitre avec le personnage qui parle ou que vous faites parler, et puis il y a l'île. Donc la narration, c'est quelque chose que vous avez construite ou c'est le genre de livre qu'on écrit un peu, pas dans un souffle, mais qui s'impose à plus que... Nous,
oui.
Vous voyez ?
Oui, oui. Non, je crois que ça s'impose un peu parce que en général, j'écris beaucoup en disant je, mais en me mettant à la place d'un personnage. là, je voulais vraiment que ce soit un peu un roman choral, mais quand je parle de... Quand il y a des chapitres intitulés Nandini, René, c'est à la troisième personne. Mais finalement, là où je dis « je », c'est Lille. C'est Lille. Donc oui, ça s'est un peu développé comme ça, élaboré comme ça, au fil de l'écriture, en fait.
Ok. Alors, j'ai encore quelques questions, mais je vais en poser une dernière et voir s'il y a des questions, surtout dans la salle. Comme ça, je laisse un peu de temps. Et si jamais, on continuera notre discussion. Alors, l'épigraphe que vous avez choisi en début de roman, c'est un extrait du poète Mahmoud Darwish qui dit « Où irons-nous après l'ultime frontière? Où partent les oiseaux après le dernier ciel? Où s'endorment les plantes après le dernier vent? Nous écrirons nos noms avec nos vapeurs carmine. »
Oui, c'est... Bah, je lisais ce recueil de Mahmoud Darwish et j'ai trouvé que ça représentait bien les questions que je posais dans ce roman, c'est-à-dire, oui, où allons-nous? Vraiment, c'est la question qui se pose. Où irons-nous lorsque les oiseaux se tairont ou que le... voilà. C'est une question, pour lui, c'est une question sur... Un monde en déréliction, mais un monde en ébullition aussi. Mais pour nous aussi, on est aujourd'hui dans un monde qui est quand même conflictuel, qui est assailli de dangers de toutes parts, de populations mises en danger. Et pour moi, cette question de où allons-nous, où irons-nous, c'est un peu ce que je pose, mais que je demande aussi, j'encourage aussi les lecteurs de se poser ces questions-là.
Ouais. En tout cas, vous semblez espérer, ou en tout cas être optimiste un peu, parce que vous dites, entre biologie et environnement, entre nature et culture, y a-t-il une autre possibilité? Une sorte de fondation d'amour terriblement humaine et qui résiste à tout. Ça répond peut-être à l'épigraphe.
Oui, parce que je crois encore en l'être humain. Ouais. Je pense que je suis pas désespérée de nous. Mais malheureusement, les voix qu'on entend le plus dans le monde, ce sont les voix plutôt de la haine, de la violence, des conflits. Et donc... je sais pas, c'est désolant parce que quand on est là tous ensemble, on parle, on échange des regards, on sent qu'il y a une compréhension humaine qui s'installe entre les êtres qui ne se connaissent pas du tout. Et pourtant, dès qu'on ouvre le journal ou qu'on écoute, on regarde les écrans, c'est aussi une espèce de... on est assailli de ces nouvelles de violence. Alors comment parvenir à avoir une voix autre, bon, pour moi c'est la littérature, mais je sais que ce n'est pas suffisant que atteindre quelques milliers de personnes, ça ne va pas changer le monde, mais c'est tout ce que je peux faire pour l'instant.
C'est énorme, quoi. C'est énorme déjà.
Mais c'est quand même un questionnement constant, parce que on sait bien que là on est quelque part dans une position de confort. J'y réfléchis souvent. Ça, c'est comme une sorte de culpabilité de me dire, oui, c'est facile de parler des tragédies du monde, des tragédies humaines, si tu n'es pas physiquement engagé dans quelque chose. Et j'y pense encore. Hein. C'est pas comme si que je ne désespère pas. Par exemple, quand je vais dans des écoles et tout, je me dis, c'est une manière aussi c'est un engagement aussi de le faire, mais ce n'est jamais suffisant pour moi. Et je me dis que je ne sais pas comment agir avant.
Vous agissez en faisant des livres, c'est quand même déjà énorme. Alors, on aurait le temps pour une question. Est-ce qu'il y en a dans la salle? C'est toujours la première la plus difficile ensuite. Non? Ok. Vous voulez bien que je finisse par un extrait en lisant? Soit je vous fais lire l'extrait, soit je le lis ou vous choisissez.
Moi, je veux bien le lire. Oui. Oui, je peux lire ça, puisqu'on en a parlé tout à l'heure. Une existence protégée par le plexiglas de la richesse. transparent pour que les autres puissent bien voir ce qui leur est inaccessible, comme ces villas luxueuses construites pour milliardaires étrangers et que pratiquement personne ici ne pourra acheter et qui poussent sur les propriétés sucrières parce que la canne à sucre ne rapporte plus. Alors on aplatit, on arrache, on arrase ce qui a été la colonne vertébrale du petit pays et qui n'est plus profitable. Et puis ça permettra d'oublier que ce beau sucre cristallin est taché du sang bien rouge des esclaves. La saveur n'en est que meilleure, subtilement frelatée par la sueur des laboureurs. Un petit blanchiment de conscience et paf, on transforme les champs en parcs paysagers pour étrangers richissimes, tandis que l'espace dévolu aux locaux devient de plus en plus étriqué. Pensez-vous, 2000 km², ce n'est vraiment pas beaucoup. Et puis, la population grandit. Mais les propriétés luxueuses dévorent l'espace disponible comme des requins, avec leurs piscines et leurs 500 m² de surface habitable. Et qu'importe si la plupart restent désespérément vides 11 mois sur 12, tandis que les pauvres s'entassent dans leurs caisses en briques ou en tôle cannelée et travaillent à maintenir la propreté des jardins et des demeures. Petites mains invisibles au service des absents qui grignotent la terre vendue aux enchères, grignotent encore et encore la chair vendue aux plus offrants. On s'y fait, puisque ce sont toujours les mêmes qui s'engraissent depuis la nuit des temps. Voilà.
Merci beaucoup. Mais écoutez, on ne peut pas rêver de meilleure conclusion à l'entretien. Merci à tous. Je rappelle que le jour des caméléons, lauréat de la langue française de la ville de Brive, est en signature. Ananda est en signature L25 chez Grasset, au centre Grasset. Merci à tous d'avoir été là. Et puis je vous souhaite une excellente journée au salon.
Merci.
Merci Ananda.
Merci beaucoup.